Nous avons des personnes qui vont bientôt avoir des bébés. Sans doute, ce n'est pas une parole prophétique. Je parle des personnes qui sont déjà enceintes. Mais franchement, dans la vie, et peut-être les papas et les mamans qui sont passés par là déjà, vous diront, la naissance d'un enfant, c'est un moment vraiment spécial. Pour moi, ce sont les plus beaux moments de ma vie. C'est la naissance de Tonio et la naissance de Sébastien. Ils ont eu la bonne idée de naître au petit matin, donc dans des journées qui étaient ensoleillées. Tout de suite après, j'ai pu Nancy rester à l'hôpital, mais moi, j'ai pu prier, remercier Dieu en regardant le soleil, en regardant le ciel, en m'émerveillant de ce qu'il avait fait. Et j'attendais ce moment de la naissance de Tonio avec beaucoup d'impatience. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, smartphone. Pour prendre des photos, il fallait avoir un appareil dans lequel on mettait un rouleau de pellicule. Et il y avait des techniques pour garder ce rouleau de pellicule pour pas qu'il s'abîme. On pouvait le garder dans le congélateur. Donc dans mon congélateur, j'avais des rouleaux de film couleur. Et avant de partir pour l'hôpital, lorsque Nancy m'a fait savoir que ça arrivait très bientôt, j'ai pris ces bobines de film, ces rouleaux de film plutôt, pour 35 mm, film de 35 mm, et je les ai mis dans ma poche pour les réchauffer un peu, pour qu'ils se réchauffent et que je puisse les utiliser. Toujours est-il que, alors que Nancy était à l'agonie sur son lit d'hôpital, j'avais confiance dans le docteur parce que c'était mon beau-père. Le papa de Nancy était son médecin. Quelque chose assez rare qui n'est pas recommandé parce que s'il y a des décisions difficiles à prendre, savoir s'il faut sacrifier l'enfant ou la maman, on pense qu'un parent ne va pas prendre les décisions avec un bon jugement. Mais toujours est-il que c'était vraiment une naissance en famille. Le reste de la famille attendait que le bébé soit né pour venir le voir et l'admirer. Et j'ai pris... Pendant que Nancy était à l'agonie, j'ai pris des photos qu'elle n'a jamais voulu que je montre à personne. Mais pour moi, ça reste un souvenir inoubliable. Chaque année, ça va t'encourager, il y a près de 100 millions de bébés qui naissent chaque année. Ça relativise les choses. Pour la maman, c'est l'événement numéro un. Mais on sait que leur avenir dépend souvent de l'endroit où ils naissent, de la culture, de savoir si le pays est en paix, s'il est économiquement pauvre ou plutôt riche. Mais la Bible va nous parler aujourd'hui d'une naissance encore plus importante que la naissance physique, c'est la naissance spirituelle. Jésus va s'entretenir avec un dénommé Nicodème et on va lire les versets 1 à 15 du chapitre 3 de Jean. Je lis dans la version second 21. C'est la Bible qu'on vous a passée si vous avez levé la main pour obtenir une Bible à lire. Voilà, donc Jean 3, 1 et suivant. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » On va s'arrêter ici. Passage bien connu, passage, peut-être un des passages les plus fameux de toute la Bible. Et je vous rappelle que l'intention de Jean, quand il écrit son évangile, ce qu'on appelle l'évangile de Jean et qu'on étudie en ce moment, on le trouve spécifiquement inscrit dans le texte lui-même. Jean 20, le chapitre 20, le verset 31, nous dit « Ceci est écrit afin que, premièrement, vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que, deuxièmement, en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Le livre de Jean, c'est le livre qui vous donne la vie. Il va donc, Jésus va expliquer à cet homme, dans cette conversation qu'il va avoir avec lui, comment nous pouvons avoir la vie éternelle, comment nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose qui vous paraît peut-être accessoire ou secondaire. Vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes en bonne santé. Mais on sait qu'à tout moment, la vie peut nous être reprise, la vie physique, et qu'il vaut mieux penser à ces moments maintenant que lorsque vous êtes en train de mourir. Je ne vais pas évoquer les différentes circonstances. Ça peut être indolore, ça peut être très douloureux. Mais la vie éternelle, c'est pas quelque chose de superflu. Soit il y a cette vie éternelle, soit elle n'est pas là. Mais maintenant, c'est le moment d'y réfléchir. Et la Bible, encore une fois, nous donne des certitudes sur ces choses. D'abord, on les lit, et puis ensuite, si on reçoit ce que le Saint-Esprit nous dit, ce que Dieu nous dit à travers ses mots, on peut arriver à la conviction que nous sommes des enfants de Dieu, que ce que dit la parole est la vérité et que nous pouvons l'embrasser de tout notre être. C'est quelque chose de merveilleux que d'avoir des déclarations sur lesquelles on peut engager sa vie. Aujourd'hui, il y a des déclarations politiques, il y a des programmes politiques. Généralement, il y a 50 ou 100 promesses qui sont faites. Et puis après, ça devient la chose à respecter. Le président fait ça parce que c'était dans son programme. Désolé, mais on doit augmenter la taxe pour l'écologie, donc on va le faire. Tant pis. Mais là, ce sont des choses vraies, ce sont des choses véritables, ce sont des choses dites pour l'éternité. Nous sommes toujours en Judée. Et Jésus-Christ se révèle à cet homme qui s'appelait Nicodème. D'habitude, on voit souvent Jésus entouré des gens simples, des gens ordinaires, mais la bonne nouvelle, elle est pour tous les hommes, les pauvres comme les plus riches, les insignifiants comme les plus respectés, comme les plus influents. Le nom de Nicodème, c'était un nom grec, c'était un juif, mais il avait adopté, ou sa famille avait adopté un nom grec, Nicodème. Nico, c'est la victoire, et démos, c'est le peuple, comme démocratie, et Nikos, c'est Nikaya. La ville de Nice était, pour célébrer une victoire, Nikaya. Donc, quelque part, on pourrait dire que ça veut dire victorieux au milieu de son peuple. Donc, c'était quelqu'un qui était respecté. On sait plusieurs choses de lui. D'abord, il devait être très riche. On sait par l'évangile de Jean, plus loin, au chapitre 19, verset 39, que lorsque Jésus est mort, un homme riche de l'aristocratie de l'époque, Joseph d'Arimathée, lui a donné sa tombe, sa propre tombe qui avait été préparée pour lui. Et il est dit que Nicodème apporta un mélange d'environ 50 kilos de myrrhe et d'aloès, des épices très coûteuses. Il fallait être riche pour pouvoir amener de telles quantités de produits pour embaumer le corps de Jésus. Il y a même une tradition rabbinique. Donc les traditions rabbiniques, c'est quelque chose qui s'est perpétué par les écrits juifs, dans la Mishnah, dans le Talmud, etc. Et il est dit qu'à l'époque, il était le troisième homme le plus riche en Israël. Alors, je n'ai pas retrouvé le texte. Je ne sais pas si le premier, c'était Bill Gates, et le deuxième, Jeff Ben Bezos. Mais c'était quelqu'un d'éminemment riche. Et puis, c'était un chef des Juifs. Il était membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, là aussi, on pense des fois que c'est un mot hébreu. Non, en fait, c'est un mot grec. Ça veut dire « sans ses saints », comme synchroniser, mettre son horloge en harmonie avec l'horloge officielle, ce qu'on a fait cette nuit. Et on est un peu fatigué pour avoir synchronisé nos horloges. Mais il était membre du Sanhédrin. Hédrin, ça veut dire simplement, ça vient du mot qui veut dire s'asseoir. Le Sanhédrin, ça veut dire ceux qui siègent ensemble. C'était le conseil. Il comptait 71 membres et c'était la cour suprême des Juifs en matière de choses religieuses, en matière religieuse. On sait que le pouvoir politique à l'époque était détenu par les occupants romains, mais les Juifs gardaient une autorité en matière religieuse. Rome se moquait de ce qu'ils croyaient, du moment que ça n'interférait pas avec la puissance romaine et que ça ne remettait pas en cause l'emprise politique des Romains sur le monde de l'époque. C'était un chef des Juifs, il était aussi docteur d'Israël, donc il était un enseignant. Il était pharisien, pas parisien, pharisien. Ça vient du mot qui veut dire « séparé ». Un des personnages de la Bible s'appelle Pérez, il était séparé. Pour nous, c'est souvent synonyme d'hypocrite religieux, pharisien. On parle du pharisianisme des fois. C'est une hypocrisie religieuse, c'est-à-dire qu'on se donne des airs religieux, mais au fond du cœur, on n'a pas de respect, on n'a pas de relation, on n'a pas vraiment d'intérêt à connaître le vrai Dieu. Les pharisiens, c'était une secte, c'est-à-dire un groupe de personnes d'environ 6000 hommes qui avaient consacré toute leur vie à étudier, à respecter la loi. Ils considéraient le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Nombre, et puis Lévitique et Deutéronome, Lévitique, Nombre et Deutéronome, comme la vérité, la parole inspirée de Dieu. Les scribes, c'était ceux qui étaient spécialistes de la loi, ils recopiaient, ils étudiaient, ils apprenaient, ils enseignaient, ils apprenaient la loi juive. Et ils avaient détaillé ces 5 premiers livres, ils avaient fait un livre détaillé qui s'appelait la Mishnah. Un exemple, la loi disait « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». Ça, c'est, on trouve ce verset dans Exode 20, au verset 8, chapitre 20, verset 8. Mais ces pharisiens et ces scribes, ces spécialistes de la loi, ils avaient fait un commentaire dans ce qu'on appelait la Mishnah, où il y avait 24 chapitres pour expliquer ce que voulait dire ce simple verset. Ils aimaient pinailler, ils aimaient détailler et imaginer des choses qui n'étaient pas vraiment nécessairement inspirées par Dieu. Jésus leur avait dit « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail. » Et donc, ils avaient écrit 24 chapitres pour décrire ce qui constituait et ce qui ne constituait pas un travail. On pouvait porter un peu d'épices, mais il ne fallait pas en porter au-delà d'un certain poids qui était tout petit. Et donc, Jésus, à un moment, leur dira, vous pinaillez, vous pesez pour savoir combien d'épices vous transportez, mais vous vous moquez des pauvres qui meurent de faim, vous ne respectez pas l'esprit de la loi. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, la Mishnah, ils ont par la suite écrit un commentaire sur la Mishnah. C'est ce qu'on appelle le Talmud. Et la partie correspondant au sabbat contenait 156 doubles pages. Il fallait 2 ans et demi pour étudier un chapitre. Et donc, ce dénommé Nicodème, si on pouvait mériter le paradis, la vie éternelle par nos efforts, par notre obéissance de la loi, Nicodème n'aurait eu aucun souci à se faire. Mais il doit avoir des questions à l'intérieur qui le rongent. Il fait partie de l'élite religieuse, de ceux qui en veulent à Jésus parce qu'il est en train de remettre en cause leur fonds de commerce, il est en train de voler leur intérêt auprès du peuple. Et pourtant, il y a quelque chose qui le gêne au fond de lui. Parce que lui, il a tout fait bien. Il est un peu comme le blond de Gad Elmaleh, si vous connaissez le sketch, et je sais que vous ne le connaissez pas tous. Il y en a qui connaissent le sketch du blond. Le blond dans ce sketch, c'est l'homme qui fait tout bien. Il est beau, il est en forme physique, ses enfants se comportent admirablement, il fait du ski comme un champion de ski, il fait tout à la perfection. Et l'auteur du sketch, Gad Elmaleh, lui, il est humain, il en a marre de voir ce blond qui fait tout bien. Mais Nicodème, toute proportion gardée, c'était le blond parmi les pharisiens. Il avait réussi sa vie, il était riche, il connaissait la loi, il était le chef des théologiens, on venait à lui pour poser des questions. Donc si c'était vraiment là que se trouvait l'épanouissement ultime, il l'aurait connu. Et pourtant, il a vu cet homme qui a chassé les vendeurs du temple, les voleurs, parce que c'était des... Tony a expliqué qu'ils avaient un racket pour les animaux de sacrifice. Il a vu cet homme plein d'un zèle pour Dieu. Il a été repris dans son être intérieur. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé en lui, mais il veut parler à cet homme qui l'impressionne, Jésus. Il est dit, verset 2, qu'il vint de nuit trouver Jésus. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires là aussi, parmi les commentaires bibliques, évangéliques, protestants, catholiques, savoir pourquoi il est venu de nuit. Moi, je vais vous dire une chose que vous pouvez noter, qui est absolument certaine, ça veut dire qu'il n'est pas venu de jour. Après, on peut supposer que peut-être c'était la peur d'être vu en train de parler à cet homme qui était l'ennemi ou que les pharisiens avaient déclaré comme leur ennemi, qu'ils voulaient mettre à mort, par peur, par timidité, ou peut-être parce qu'ils savaient que dans la journée, on pouvait pas parler à Jésus. Il était toujours entouré par une foule de gens. Puis aussi, peut-être parce que la nuit, on pensait que c'était un meilleur moment pour étudier. Tout est calme autour de vous, on peut se concentrer sur la conversation. On a vu au chapitre 2, on va relire versets 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on leur enseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Nicodème est attiré par les miracles. Il dit « Maître », et donc là c'est le mot « rabbi », en hébreu « rabba », ça veut dire « beaucoup ». Si vous allez en Israël, vous apprendrez comment dire « merci », « toda ». Et si vous voulez dire « merci beaucoup », vous dites « toda rabba », « rabba », beaucoup de remerciements. Donc le maître, c'était un terme pour dire « tu es supérieur, tu as des choses à m'apprendre ». Nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc il est intrigué, il est attiré par les miracles accomplis par Jésus. C'est ce que veut dire le mot « signe ». Ce sont des miracles désignés à montrer que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même. Aujourd'hui, on trouve des spécialistes qui dénient ou qui nient les miracles de Jésus. En fait, il n'a pas marché sur l'eau. Il y avait juste quelques pierres qui affleuraient et il les avait vues et il marchait dessus. Mais à l'époque de Jésus, il est vital pour vous de reconnaître que personne n'a jamais nié ces miracles. Parce qu'eux, ils étaient là, ils ont vu que c'était vraiment des miracles. Ce n'est pas 2000 ans ou plus tard qu'on dit non, c'était un truc, c'était un tour de cartes. C'était une manipulation des choses. Les critiques, s'ils voulaient rejeter Jésus, ils ne disaient pas qu'il n'avait pas fait de miracles, ils disaient qu'il les faisait par le pouvoir de Belzébul. Il le faisait par le pouvoir du diable. Mais aujourd'hui, certains disent « Oui, non, c'est pas vrai, ça ne s'est pas passé comme ça. » En fait, la vérité, c'est qu'il a accompli des miracles. En même temps, nous savons que Jésus s'impatientait avec les gens qui voulaient voir des miracles. Et on sait que beaucoup ont vu des miracles et n'ont pas pour autant cru en lui comme le Fils de Dieu. Dans Jean 20, Jésus va dire à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Beaucoup de gens vous disent « Ah, moi, si je voyais un miracle, alors je croirais en Jésus. » Ce n'est pas vrai. Parce que la foi, c'est pas une conviction extérieure, c'est une ouverture de cœur. Si votre cœur est ouvert à Dieu, alors il peut vous parler, il peut vous encourager et vous attirer à lui. Et de toute évidence, Jésus voit dans le cœur de Nicodème quelqu'un qui a un cœur ouvert et sincère. Et on sait que par la suite, Nicodème va devenir un disciple de Jésus, au chapitre, juste deux passages, au chapitre 7, verset 50, on va voir que Nicodème va prendre la défense de Jésus lorsque les chefs juifs veulent condamner Jésus. Verset 50 de Jean 7, Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Et ils lui répondirent « Es-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien et tu verras que de la Galilée il ne sort pas de prophète. » Donc on voit qu'il prend courage et il ose parler pour Jésus. Et puis finalement, au chapitre 19, on va voir que au verset 39 et 40, là il va se découvrir comme quelqu'un qui aime Jésus. C'est lors de la mise au tombeau. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. À chaque fois, c'est son acte de gloire. C'est l'événement par lequel on le précise. C'était lui qui était venu la nuit. Vint aussi, il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. J'avais dit 50, ça dépend des versions ou des estimations de poids. Et donc, ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Et donc, on va voir que Jésus est ouvert à cet homme parce qu'il a senti que son cœur était ouvert. Et ça, c'est la chose primordiale pour rencontrer Dieu, rencontrer Jésus, c'est d'avoir un cœur ouvert. Il est dit dans Jérémie, dans le prophète Jérémie, vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. Et c'est quelque chose d'essentiel de savoir que si vous venez à Dieu avec vos doutes, vos questions, vous n'allez pas être rejeté. Au contraire, Dieu va vouloir vous répondre. Mais si vous venez dans l'esprit de dire que la foi en Dieu est une bêtise, que ça ne tient pas la route, que c'est s'il y a un parti pris avant d'avoir une ouverture d'esprit, alors vous ne pourrez pas rencontrer Dieu. Pour parler de cette conversion, pour parler de cette transformation qui nous donne la vie éternelle, Jésus va donc utiliser plusieurs images. D'abord, on va voir, il va parler de l'image de la naissance. Il va parler plus loin de l'image du vent. Il va parler de l'image du serpent. L'image de la naissance, c'est une image puissante qui, si on la considère correctement, enlève toute responsabilité personnelle pour être sauvé. Quand Tonio est né, quand vous êtes né, quand je suis né, on n'a pas fait d'effort pour naître. On a pleuré, on a pris notre première respiration peut-être, mais on n'y était pour rien. Moi, je sais pas, mais mes parents m'ont pas demandé mon avis avant de me concevoir. C'est pas par mes efforts que je suis né. Et c'est pas non plus par vos efforts personnels que vous pouvez naître spirituellement. Ça enlève toute notion d'effort méritant d'être sauvé. Toute notion d'effort pour mériter d'être devenir enfant de Dieu. Jésus lui dit, en parlant de la naissance, en vérité, c'était une façon de dire, écoute bien ce que je te dis, c'était même le mot en hébreu, en araméen, amin, amin, amen, amen, je te le dis, Donc, regarde-moi bien, je te dis quelque chose d'important, ne l'oublie pas. À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. L'expression traduite ici par « de nouveau » pourrait aussi bien être traduite par « d'en haut ». Jésus sait que la religion ne satisfait pas le cœur de l'homme. Vous connaissez la parabole du semeur qui nous montre quatre types de terrains où la semence de la parole peut tomber. C'est dans Matthieu 13, chapitre 4, versets 4 à 8. Il y a le chemin piétiné où les oiseaux viennent manger la semence qui reste à la surface. Ça, c'est le cœur endurci. Il y a les endroits pierreux où la semence peut commencer à germer mais ne peut pas plonger des racines bien longues et solides. Ça, c'est le cœur superficiel. Il y a le terrain où il y a des épines qui étouffent la semence. Elle ne peut pas respirer, elle ne peut pas recevoir le soleil, elle ne peut pas recevoir la pluie. C'est le cœur saturé d'activité, de soucis. C'est souvent le cas de nos contemporains qui sont pleins de préoccupations variées et diverses. Et puis, il y a la bonne terre où la semence peut germer, grandir, se multiplier, donner du fruit jusqu'à 100 fois ce qui a été semé. Et ça, on peut dire que c'est le cœur sincère, c'est la bonne terre. Est-ce que votre cœur est de la bonne terre pour l'Évangile, pour la semence de l'Évangile? Ce que dit Jésus, c'est que s'il n'y a pas cette naissance qui vient d'en haut, ce n'est pas quelque chose que j'arrive à faire par moi-même, je ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et c'est intéressant là, parce qu'on a une conversation, c'est presque humoristique, c'est que Jésus parle à un certain niveau et Nicodème, qui était le chef spirituel en quelque sorte d'Israël, qui devait connaître, il pouvait lire dans le texte toute la parole de Dieu, la Torah, il l'étudiait, il la connaissait, et cet homme, il va parler de façon très terre à terre. Naître de nouveau, naître d'en haut, il y a tant. Dans mon cas, tu vois, je suis âgé, je suis plus tout jeune, je suis plus un bébé. Comment est-ce que je peux naître une deuxième fois? Il regarde ses chaussures, il regarde ses vêtements, il dit, il faut que ça rentre dans ma mère, tout ça, pour qu'elle puisse me redonner la vie. Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Il a ses pensées, il se dit, attends. Et Jésus lui répond, écoute-moi bien, Nico, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de la chair est chair, dans le sens, ça reste humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau ou il faut que vous naissiez d'en haut. Cette image de la naissance, elle est fondamentale. Encore une fois, parce que elle n'est pas de notre fait. C'est Dieu qui vient nous parler. L'Esprit Saint de Dieu est à l'œuvre, que vous le voyez ou non. On y reviendra dans quelques lignes. Il est d'abord autour de nous. Il est à l'œuvre pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Chaque homme est entouré par l'Esprit Saint et l'Esprit Saint utilise notre conscience pour nous dire que certaines choses sont bien, certaines choses sont mal, on ne peut pas le nier. Même les criminels les plus endurcis, c'est faute d'avoir répondu à cette présence du Saint-Esprit qui leur montrait que des choses étaient bonnes et d'autres étaient mauvaises, qu'il est endurci au point de ne plus avoir de scrupules et faire n'importe quoi. Il est autour de nous, et si nous acceptons ce premier témoignage de l'Esprit-Saint, si nous recevons ce que nous appelons recevoir Jésus-Christ, et entre parenthèses, certains critiquent l'idée de demander aux gens de recevoir Jésus, que c'est trop facile. Mais encore une fois, on l'a vu que nous sommes invités dans le prologue. La parole est venue chez les siens ne l'ont pas accueillie, les siens ne l'ont pas reçue. Nous devons recevoir la parole, dire oui, je crois que ce que tu dis est vrai et je veux que tu viennes transformer ma vie, je veux que tu viennes en moi. Et puis, il y a une troisième relation avec le Saint-Esprit, une fois que nous sommes sauvés, que nous avons reçu Jésus-Christ en nous par l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint peut venir nous préparer à des témoins efficaces, c'est ce que certains appellent le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui est décrit dans Actes 1, 8. L'Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre et même jusqu'à l'avenue Aimé Martin à Nice. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. On ne peut pas venir à Dieu si ce n'est pas Dieu qui vient d'abord à nous. Mais Dieu veut venir et toucher tous les hommes. L'homme, laissé à lui-même, ne peut pas voir les réalités spirituelles. De Corinthiens 4:4, Paul nous dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, parlant du diable. » Un simple accroissement de lumière sur un objet ne peut pas permettre à un aveugle de voir cet objet. Vous pouvez mettre autant de lumière, de lumen, de LED que vous voulez. Si l'œil est malade, l'œil est aveugle, il faut que la maladie de l'œil soit d'abord guérie, avant que la vision soit possible. Avant que la vérité puisse faire son effet, le Saint-Esprit doit d'abord agir sur le cœur. Paul disait dans 1 Corinthiens 2,14, « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et Nicodème, lui, il ne comprend toujours pas, il pense à la naissance physique. Et c'est le même problème aujourd'hui. Si on parle de vie éternelle, de vivre pour l'éternité, souvent les gens vont vous parler d'aller à l'église, d'être membre d'une église, d'être né dans une famille chrétienne. Certains pensent que même d'être né dans une nation où il y a encore beaucoup d'églises, même si elles sont vides, ça, non, il faut naître d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit, alors ça peut être... Pour être véritablement sauvé, il faut d'abord naître physiquement, et ça ferait référence à l'eau du liquide amniotique. Mais c'est aussi naître d'eau, c'est passer par l'eau du baptême, de repentance. Sans baptême, il est dit qu'on n'entre pas dans le royaume, c'est-à-dire c'est s'il n'y a pas cette repentance dans mon cœur, si je ne réponds pas au message du Saint-Esprit qui me dit que j'agis mal, et que je lui demande pardon, je ne vais pas pouvoir naître de nouveau. L'eau, c'est souvent une image de la parole de Dieu dans la Bible, dans 1 Pierre 1:23. Et donc, quel que soit le sens, si c'est un sens physique ou un sens spirituel indiquant la repentance, il faut naître de l'esprit pour être esprit. Puis il va utiliser une deuxième image, verset 7. Il nous a dit que au verset 7 plutôt, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est absolument impératif. Personne n'ira au paradis qui n'est pas né de nouveau, né de l'Esprit de Dieu. Et au verset 8, il utilise une autre image. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. C'est intéressant qu'en hébreu, le même mot désigne à la fois le vent, plutôt en grec, on parle du même mot pour dire le vent ou l'esprit. C'est le mot pneuma. Et en hébreu, c'est le mot ruach, qui veut dire aussi vent ou esprit. Est-ce que vous avez déjà vu du vent? Alors vous avez... C'est une petite question piège, mais ce n'est pas bien grave. En fait, personne n'a jamais vraiment vu le vent. On ne voit en fait que les effets du vent. On voit les arbres qui se balancent, on voit les arbres les toitures qui s'envolent, ou simplement la poussière qui vous vient dans les yeux. Et c'est vrai qu'avec les centaines de milliers les milliers d'ordinateurs puissants qui étudient la météo, il se trouve qu'il y a des fois des tempêtes qui n'avaient pas été prévues, qui prennent les météorologistes par surprise. Et c'est un phénomène éminemment complexe. C'est en trois dimensions, il y a des gaz, il y a des mouvements, il y a de l'évaporation, il y a un papillon qui bat des ailes en Chine, qui va peut-être causer des répercussions à Nice. C'est des couches d'air chauffé qui se mélangent. Et moi, je suis déjà émerveillé qu'ils peuvent faire des prévisions à quelques jours. Et on nous dit que s'il ne pleut pas d'ici demain, on aura à Nice vécu la période la plus sèche de l'histoire d'enregistrement météorologique. On va dépasser les 52 ou 53 jours. La météo, c'est une science encore balbutiante. Et tout ce qu'on voit, c'est les effets. Et de la même façon, Jésus dit, l'Esprit Saint, c'est la même chose. On ne voit pas l'Esprit Saint. Par contre, on voit les effets de l'Esprit Saint dans la vie des gens qui nous entourent. Il y a des gens qui refusent de croire en Dieu parce qu'il est invisible. Mais ils sont prêts à croire au vent. Si on leur dit que demain il va avoir une tempête, ils ne vont pas sortir. Ils ne voient pas les ondes électromagnétiques qui remplissent cette salle. Mais chaque fois qu'ils tournent le bouton de leur télé, ils croient dans ces ondes électromagnétiques. Ils confessent leur foi active en ces ondes. Et verset 10... Nicodème répond, comment cela peut-il se faire? Et Jésus, c'est presque un peu comme s'il le reprend, peut-être pas violemment, mais lui dit, toi tu es l'enseignant d'Israël, c'est toi qui es supposé instruire le peuple, tu es le chef des théologiens, et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus se révèle de plus en plus. Il reprend Nic, il a dit, toutes ces choses que tu devrais savoir, moi je les sais parce que je suis le Messie. Je suis monté au ciel, je suis descendu du ciel, je suis le Fils de l'homme. C'était le titre messianique pour dire qu'il était Jésus lui-même. Les choses terrestres, c'est les choses élémentaires comme la naissance physique, le vent. Les choses célestes, ce sont les choses spirituelles plus avancées. Et puis au verset 14... Jésus utilise une autre illustration pour convaincre cet homme qui est perplexe, qui se pose des questions sincères. Il lui parle de Moïse qui a élevé le serpent dans le désert. Si vous vous souvenez, dans le livre des Nombres, il y a un épisode un peu bizarre. Un épisode un peu bizarre au chapitre 21, c'est versets 4 à 9. On va lire cela. Il parle des Juifs qui sont dans le désert, dans la traversée du désert, qui rencontrent des victoires sur les Cananéens, qui ont des victoires sur les Cananéens. Et verset 4, il est dit, « Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert ?» En effet, il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture, parlant de la manne. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. » Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit, fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Le bronze, c'était typiquement le métal du jugement. Et donc, Dieu avait donné un remède contre les serpents qu'il avait envoyés d'abord pour punir le peuple de son incrédulité, de du fait qu'il n'arrêtait pas de se plaindre de Dieu, de Moïse. Et il dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Élevé, c'est-à-dire élevé sur la croix, élevé dans les cieux vers la gloire. Il faut, verset 7, que vous naissiez de nouveau. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. C'était bizarre ce remède. Il leur suffisait pas de trouver un vaccin antivenimeux, pas de prétendre qu'ils n'étaient pas là, que ce n'était pas vrai, ils n'avaient pas été mordus. Ce n'était pas en passant des lois anti-serpents. On ne leur demandait pas de monter à la perche pour être guéri. Non, la simple solution, c'était de contempler par la foi le serpent en bronze qui avait été élevé. Le monde entier a été mordu par le péché. Le péché est entré dans la race humaine et maintenant nous en héritons tous de par notre naissance physique. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Mais Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir à ma place, pour vous et pour vous aussi. Comment est-ce que on peut être né de nouveau, sauvé de la perdition éternelle, simplement en mettant notre foi en Jésus-Christ, en fixant nos yeux sur lui par la foi? C'est très simple. Vous n'avez rien à faire qu'à regarder à Jésus. C'est très simple et c'est peut-être trop simple. On aimerait avoir la possibilité d'en faire davantage. Quiconque croit en lui, c'est une foi suivie d'action, va avoir la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et c'est fou de regarder ce serpent dans le désert avec ce sauveur sur la croix. Tout ce que les Israélites avaient à faire, c'était de regarder. Nous, tout ce qu'on nous demande, c'est de regarder à Jésus, de croire en lui et à ce qu'il a fait à la croix. C'était offert par Dieu, ce serpent, cette solution, ce remède. Nous, c'est un cadeau de Dieu. On le verra au verset 16. C'est incompréhensible. Il n'y a rien à ajouter pour être sauvé. Tout ce qu'il faut, c'est ce regard de foi. Et quelque part, ça nous gêne parce que c'est une insulte à notre intelligence. Vous me dites que Il suffit de regarder à Jésus pour être sauvé. Oui, c'est ce que Jésus est en train d'expliquer à Nicodème. Le 6 janvier 1850, il y avait une tempête de neige dans la petite ville de Colchester, en Angleterre. Il y avait un jeune homme qui n'avait pas pu se rendre à son église habituelle parce que la route était trop mauvaise, trop enneigée. Alors il est allé au culte dans une petite église méthodiste de son quartier. Et là, le pasteur n'avait pas non plus pu venir. Et donc c'était un laïc, un ancien pas très instruit qui remplaçait le pasteur malade. Et il prêchait sur Ésaïe 45, 22 qui dit « Regardez-moi et soyez sauvés, vous tous les confins de la terre ». Le jeune homme était mal dans sa peau à ce moment-là, il était en recherche. Son grand-père et son père étaient des pasteurs, mais lui n'était pas sûr de son salut. Et le prédicateur remplaçant n'avait pas eu beaucoup de temps pour préparer, il n'avait pas grand-chose à dire. Il se contentait de répéter le texte. « Regardez-moi et soyez sauvés, vous tous les confins de la terre, toute l'humanité, regardez Jésus, regardez-moi Jésus », disait par Ésaïe 45. Et puis, il a ajouté, un homme n'a pas besoin de faire des études poussées pour apprendre à regarder. N'importe qui peut regarder, un enfant peut regarder. À ce moment, il remarqua le visiteur et il lui dit, jeune homme, vous avez l'air malheureux. Jeune homme, regardez Jésus-Christ. Le jeune homme regarda par la foi et c'est ainsi que fut converti le plus grand prédicateur anglais de l'histoire, Charles Spurgeon, qu'on a appelé le prince des prédicateurs. Prions. Il faut que vous naissiez de nouveau, regardez Jésus-Christ et soyez sauvés. Merci Père pour ton amour. Merci parce que Tu as tout fait pour nous, Seigneur. Tu nous as laissé la liberté dont nous avons abusé pour nous éloigner de toi. Le péché est entré dans la race humaine, mais toi, tu as un remède. Et ce remède, il est en Jésus-Christ. Tu nous demandes simplement de regarder à lui. Seigneur, nous voulons te dire que nous avons confiance que ce remède, il est valable aujourd'hui, au 21e siècle. Que quiconque te cherche sincèrement n'a qu'à regarder à toi, Jésus. Et peut-être que parmi nous, il y en a qui n'ont jamais encore vraiment fait cette démarche de mettre leur confiance en Jésus-Christ pour leur vie physique ici-bas, mais aussi pour leur vie éternelle, ô combien plus importante. Si c'est votre cas et que vous vouliez regarder à Jésus-Christ pendant que nous sommes dans la prière et le recueillement, je vous demanderai simplement de lever la main. C'est la meilleure décision que vous prendrez jamais de toute votre vie. Indiquez-le simplement en faisant un geste de la main. Sachez que le moment du salut, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Vous pouvez toujours faire cette confession de foi de votre côté, mais je vous encourage à ne pas tarder et à le faire maintenant. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité, que nous pouvons compter sur elle et qu'il y a la puissance du salut en Jésus, Seigneur. Merci pour cette personne qui veut te regarder, le cœur sincère, le cœur ouvert. Et merci Seigneur parce que cette personne, nous savons que maintenant, elle est sauvée pour l'éternité. Nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni Seigneur. Merci de continuer à sauver, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.